enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Deutéronome, le chapitre 28, le verset 8 dit: L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi, dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Alléluia. Toutes les bénédictions sont des bénédictions. Amen. Mais au verset 8, en ce qui concerne la sixième porte, la sixième bénédiction, il dit, je vais ordonner à la bénédiction d'être avec toi. Est-ce que les autres ne sont pas des bénédictions aussi? Elles sont en fait des bénédictions. Mais là, plus particulièrement, il insiste en disant, j'ordonnerai à la bénédiction d'être avec toi. Qu'est-ce qui ressort de ce passage? Ce passage fait ressortir le fait que maintenant, la bénédiction va te poursuivre. Amen. Dieu dit, je vais ordonner à la bénédiction d'être avec toi. Au préalable, on posait des actes pour pouvoir avoir la bénédiction. C'est-à-dire, on courait quelque part derrière la bénédiction. Et ici, Dieu dit à cette porte-là, à la porte d'Issacar, que lui, Dieu, il va ordonner à la bénédiction d'être avec toi, d'être constamment avec toi. Amen. Et cette bénédiction-là qui sera constamment avec toi, te donnera du succès en toutes choses, parce qu'elle est constamment avec toi. Dans tes entreprises, il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Et vous allez voir, effectivement, comme je l'ai cité, comme je l'ai dit la dernière fois, après la porte des ennemis, nous rentrons dans une phase de multiplication des faveurs. Alors, lorsque vous avez passé la porte des ennemis, lorsque Dieu commence à prononcer dans cette vie la bénédiction d'Issacar, amen, c'est cette bénédiction effectivement qui va maintenant introduire l'ensemble des multiplications, parce que la bénédiction va te poursuivre en toutes choses. Ce qui fait que le maximum des choses que tu toucheras va se multiplier, parce que tu es béni en tout. Amen. Tu es béni en tout. Tu es béni en tout. Et cette faveur de Dieu-là va te faire croître, va te faire aller de l'avant, aller de l'avant, aller de l'avant. Je n'entrerai pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la profondeur même de cette bénédiction aujourd'hui. Mais je veux juste insister sur du fait que Dieu va ordonner à la bénédiction d'être avec vous. Amen. Que la bénédiction soit avec vous, constamment. Je me suis posé la question en voyant ce passage, mais qu'est-ce qu'il peut faire? Quels sont les actes qu'on doit poser pour que Dieu déclenche quelque chose constamment dans votre vie? C'est-à-dire une faveur qu'elle a constamment. Et cette pensée-là a attiré mon attention sur un passage que j'aime énormément, que je cite souvent, surtout dans l'enseignement sur le tabernacle et aussi dans l'enseignement sur la clé de David. Donc je reviendrai sur certains passages le dimanche prochain dans l'enseignement sur la clé de David. Dans le livre de Jean, le chapitre 8, le verset 29, il est dit: celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Amen. Je dis donc que ce qui m'intéresse particulièrement dans l'exhortation de ce jour, c'est cette notion de permanence de la bénédiction avec vous. Il dit, j'ordonnerai à la bénédiction d'être avec toi. Ce qui m'intéresse dans la porte d'Issacar pour le moment, et que nous développerons, c'est avec la clé de David, alléluia, qui ouvre toutes les portes, c'est cet aspect de la permanence de la bénédiction dans ta vie. J'ordonnerai à la bénédiction d'être avec toi. La bénédiction va te suivre. La bénédiction sera à côté de toi. Et cet aspect-là qui m'interpelle. Et je viens donc dans le passage de Jean chapitre 8, verset 29, où Jésus parle de la présence constante de Dieu dans sa vie, de la manifestation de la présence constante de Dieu dans sa vie. C'est un passage, moi, qui me motive constamment dans ma marche avec le Seigneur, qui était pour moi, lorsque je l'ai découvert, une vraie révélation de Dieu. Jean 8, 29 dit ceci, Jésus qui parle, il dit: celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours, toujours, ça veut dire tous les jours, c'est ça que ça veut dire, non? Toujours, c'est une abréviation du mot, de ces mots-là, tous les jours. Il dit, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Alléluia. Jésus dit que le Père, son Père est constamment avec lui. Pourquoi? Parce que tous les jours, lui, Jésus-Christ, il fait l'effort de faire ce qui est agréable à Dieu. Moi, le passage m'a intrigué parce que j'aurais préféré d'autres phrases. Que Jésus puisse dire, mon Père est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul. Parce qu'il m'a oint avant la fondation du monde. Il veut dire, le Père est constamment avec lui, tout simplement parce que lui, Jésus, avant la fondation du monde, il était oint. Il pouvait dire, mon Père m'a oint parce que j'ai été appelé par lui. Il dit pas, mon Père est avec moi parce que j'ai été appelé par lui. Il dit pas, mon Père est avec moi parce que j'ai été choisi avant la fondation du monde. Il ne dit même pas, mon Père est avec moi parce que j'ai fait sa volonté en venant dans le monde pour offrir ma vie en sacrifice. Nous aurons compris, ce sont des arguments valables. En fait, Jésus, dans ce passage, donne la raison, la clé de la présence constante de Dieu dans sa vie. Il dit, papa est avec moi, mon père est avec moi. On aurait dit, oui, c'est normal que le père soit avec toi. Avant que le monde existe, tu étais déjà annoncé. On t'avait déjà prévu. C'est pourquoi le père est avec toi. Christ dit non. C'est pas pour ça qu'il est toujours avec moi. Parce que quelqu'un peut avoir été choisi dans le ventre de sa mère. Alléluia. Et le père va le lâcher. Oui, on a l'exemple de Samson. Avant qu'il ne naisse, l'ange de l'Éternel était apparu à ses parents pour dire que cet enfant-là est ouin. Mais Samson n'a pas marché tous les jours dans ce qui est agréable à Dieu. Alléluia. Ce qui fait qu'à un moment donné, le père n'était pas avec lui. La Bible dit que ceci, que nous avons été élus avant la fondation du monde. En parlant de nous, les enfants de Dieu. Donc, Christ a été choisi pour le salut de l'humanité avant la fondation du monde. Nous aussi, nous avons été choisis avant la fondation du monde. Vous savez, en fait, quand je lis ce passage, pourquoi est-ce qu'il m'intrigue? Pourquoi est-ce qu'il m'interpelle? Vous savez, il m'interpelle à ne pas dormir sur mes lauriers. Parce que trop souvent, des personnes se trompent. Ils disent non. Oh, Dieu ne se répond pas de son appel. Je suis ouin, mon frère. Il m'a choisi. J'ai été appelé. On a plusieurs argumentations, plusieurs raisons qu'on peut donner pour justifier que Dieu est constamment avec nous. Mais Jésus lui-même, je sais pas, il n'y a pas plus loin que lui. Il dit. Et puis nous, on est fils de Dieu par procuration, bon, par adoption. Lui, c'est l'original, le vrai. Il dit, papa est avec moi parce que je fais tous les jours ce qui lui est agréable. Amen. Ça veut dire, tous les jours, quand je me lève le matin, comme je fais ce qui est agréable avec à papa, il est avec moi. Amen. Que le père ne soit pas avec vous, ça ne signifie pas que vous n'êtes plus chrétien. Suivez-moi très bien. Que papa ne soit pas avec vous, c'est-à-dire Dieu n'est pas avec vous, c'est pas dit que vous avez rétrogradé. Il dit, j'ordonnerai à la bénédiction d'être avec toi. Ça parle de la présence constante de Dieu. Qui fait que Dieu n'échoue pas. Qui fait que tout ce que tu touches, tout ce que tu fais, Dieu bénit. Alléluia. Dieu bénit. Dieu est constamment avec toi. J'ordonnerai à la bénédiction d'être avec toi, dit le Seigneur. Dieu est constamment avec toi. Il est là. Quand papa n'est pas là constamment, tu restes chrétien, mais c'est sporadique. C'est-à-dire, moi, la présence de Dieu a disparu. Après, ça réapparaît vers le soir. Mais la majorité des chrétiens marchent comme ça. Un jour, on est là en fait. C'est pas que Dieu n'est plus là. Tu es chrétien, tu es sauvé, ton salut, ça c'est clair. Et ce passage ne remet pas en cause le fait qu'il soit fils de Dieu. Ce passage ne remet pas en cause le salut des gens. Mais ce passage parle simplement de la présence constante de Dieu. Amen. Car tu peux poser un acte, n'est-ce pas? Et puis Dieu n'est pas là-dedans. Dieu n'est pas avec toi. Même lorsque nous parlons des hommes de Samson, Dieu ne s'est pas repenti de son appel. Samson avait toujours l'onction, il s'est repenti. Dieu était toujours là, amen. Et il a fait tomber leur temple, leur ville, leur temple s'est écroulé. Donc, je ne parle pas du salut. Je ne parle pas du salut. Je parle d'avoir Dieu tous les jours dans tout ce que vous faites, dans ce que vous touchez, dans ce que vous entreprenez. Dieu est dedans. Dieu est dedans. Amen. Tu vis avec quelqu'un, Dieu est dedans. Tu marches, Dieu est là. C'est de ça que je viens de parler. Il dit, mon père est avec moi. Parce que je fais... Non, c'est pas sa volonté. On arrive. Mais c'est pas sa volonté. Hein? C'est pas sa volonté d'être. Non, il faut faire sa volonté. Mais c'est parce que je fais tous les jours ce qui lui est agréable. C'est différent. Bon, en fait, c'est sa volonté, mais c'est agréable. Dis à ton voisin, agréable. Alléluia. Donc, Dieu sera constamment avec vous. Vous sentirez dans votre vie la présence de Dieu. Pas parce que Sanogo a prié pour vous, il a prophétisé, l'onction est tombée. Non. Dieu ne sera pas avec vous parce que l'onction, vous avez été ouin et vous avez parlé en langue il y a 3 ans. Dieu sera dans votre vie parce que tous les jours, vous faites ce qui lui est agréable. Amen. Ça ne va pas remettre en cause votre baptême dans le Saint-Esprit. Ça ne mettra pas en cause le fait que l'onction de Dieu vous ait visité, que vous êtes tombé sous la puissance de Dieu. Mais, pour que Dieu soit avec vous, après que vous soyez tombé sous l'onction, c'est que le lendemain matin, après être tombé, il faut faire ce qui lui est agréable. Le soir, il faut faire ce qui lui est agréable. Alléluia! Tous les jours, il faut faire ce qui lui est agréable. Si Christ, Dieu, dit que le Père est avec lui parce qu'il fait toujours ce qui lui est agréable, à plus forte raison, nous. Amen. Alléluia. Alors, mais qu'est-ce qui est agréable à Dieu? Comment faire tous les jours ce qui est agréable à Dieu? J'ai parlé tout à l'heure à notre sœur. Elle dit non, pas simplement la volonté, parce que ça va beaucoup plus loin. Nous ouvrons nos Bibles donc dans le livre de Romains, chapitre 12. Ça va, vous me suivez? Est-ce qu'on suit? Si tu suis, fais comme ça. Ok, ça peut aller. Romains, le chapitre 12, à partir du verset 1. Il dit, le Seigneur dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2 qui m'intéresse plus particulièrement. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et parfait. Alléluia. Alléluia. C'est un passage que j'aime citer, dont vous le connaissez sûrement. Permettez que je le rappelle encore. Dieu dit de ne pas se conformer au siècle présent, mais d'avoir l'intelligence renouvelée, transformée. D'avoir notre pensée transformée par le renouvellement de l'intelligence. Il dit, afin que vous discerniez la volonté de Dieu. Et dans la volonté de Dieu, il va citer trois choses. Ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Amen. Ça veut dire quoi? La phrase de Christ va beaucoup plus loin que faire la volonté de Dieu. Parce que même quand tu fais la volonté de Dieu, il y a la volonté bonne. Ça veut dire, le Père sera avec toi. Je vais vous expliquer. Si tu fais la volonté bonne de Dieu, papa ne sera pas toujours avec toi. Si tu es dans la volonté de Dieu, hein, mais tu es dans le bon, là, il ne sera pas toujours avec toi. Il faut faire au moins ce qui est agréable. Donc, tu peux ne pas pécher, mais le Père ne sera pas toujours avec toi. Ça veut dire, on comprend que, alléluia, mon Père ne sera pas avec moi parce que j'ai péché. Ça, on a connu. N'est-ce pas? Si je pêche, Dieu ne peut pas être dedans. Mais là, il y a le groupe de ceux qui ne pêchent pas, qui font l'effort de faire la volonté de Dieu. Même dans ceux qui font la volonté de Dieu, Dieu peut ne pas être toujours avec eux. Alléluia. Parce que dans la volonté de Dieu, il y a plusieurs dimensions. Il y a une volonté qu'on appelle bonne. Il y a une volonté qu'on appelle agréable. Il y a une volonté qu'on appelle parfaite. Pour que Dieu soit avec toi, faut pas prendre bon. Tu vois, non? Pour que Dieu soit constamment avec toi, il faut faire plus que ce qui est bon. Il faut faire ce qui est agréable. Vous voyez qui dit, parce que l'affaire devient compliquée maintenant. Mon Père est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais tous les jours ce qui lui est agréable, pas ce qui est bon. Amen. Alors, essayez de mieux comprendre un peu. Faire la volonté de Dieu, c'est un acte que je pose. Dans un acte que je pose, on va juger l'acte. Pour savoir si l'acte que je pose est bon, si l'acte que je pose est agréable, ou si l'acte que je pose est parfait. Amen. Donc, chaque acte que je pose, on peut même encore aller plus loin. On va même juger d'un acte. Si l'acte que je pose est mauvais, après mauvais, on va voir si ce que je fais est bon, ou bien si l'acte que je pose est agréable, ou encore s'il est parfait. Certains ne comprennent pas encore trop. N'est-ce pas? Cette affaire de volonté bonne, agréable, parfaite là. Je vais vous expliquer l'histoire. Amen. Bon, de toute façon, dans l'enseignement que je donne sur le tabernacle, je l'explique plus ou moins. Mais je vais rappeler quand même. Ce que vous voulez, vous-même, en tant qu'homme, dans ce que vous voulez, il y a trois niveaux dans ce que vous voulez. Alléluia. Même dans vos désirs, dans votre choix, il y a trois niveaux dans votre choix. Vous avez des choix bons, vous avez des choix agréables, vous avez des choix parfaits. Vous avez une volonté bonne, une volonté agréable et une volonté parfaite. Alléluia. La volonté qui est bonne, c'est la volonté qui n'est pas mauvaise. C'est-à-dire, quand tu n'as pas fait le mal, on dit, c'est bien. Tu n'as pas fait le mal. Maintenant, ce qui est agréable, c'est ce qui commence à toucher, c'est ce qui fait plaisir. Amen. Nous sommes ici tous des adultes. Je pense que c'est nous tous ici, nous achetons volontairement nos tenues. N'est-ce pas, non? C'est toi-même qui vas acheter tes habits, non? Et puis, il y a certains qu'on t'offre. Mais il n'y a plus l'affaire de papa ou de maman qui va t'habiller. Toi-même, tu vas être choisi. Mais dans les vêtements que tu as, tu fais une distinction. Toi-même, tu as acheté tes propres vêtements. Mais dans ton placard ou dans ta garde-robe, il y a une tenue, il y a une volonté, il y a un choix qui est bon. C'est pas mauvais, c'est juste pour t'habiller. Il y a une autre tenue, quand tu la vois, tu es content. Il y a une autre tenue. Quand tu la vois, c'est comme la perfection. L'habit qui est bon, là, qui est ta volonté bonne, s'il se déchire, il te fait pas, ça te fait même pas mal. Mais pourtant, c'est toi-même qui l'as acheté. Hein. Toi-même, tu es parti au marché puis tu l'as acheté. C'est ta volonté. Amen. Les habits qui sont mauvais, tu ne les achètes pas parce que tu n'aimes pas ça du tout. Ça, c'est ce qui n'est pas ta volonté. Quand ils disent, mais je ne veux pas. Maintenant, les autres, là, tu veux. Mais dans ce que tu veux, là, tu fais un tri. Tous les habits qui sont dans ta garde-robe, c'est ce que toi-même, tu as voulu. C'est ta volonté. Amen. Mon frère, ton truc, là, c'est quoi? C'est bon, agréable ou parfait? C'est agréable. Amen. Non, vous pouvez savoir ce que vous portez, vous pouvez savoir si c'est une volonté bonne, si c'est une volonté agréable ou si c'est une volonté parfaite. Une volonté bonne. Ça veut dire, tu prends ça. La soeur dit, c'est facile. Tu prends la tenue. Bon, ça, c'est juste pour te dépanner. Quelquefois, même, tu prends ça juste pour faire les travaux à la maison. N'est-ce pas? Tu travailles. Donc, même si ça se salit, on dit, non, frère, c'est pas grave. Mais il y a des habits que tu peux même pas porter. Ça, c'est pas ta volonté. Mais dans ce que toi-même tu as choisi, il y en a. Certains s'ils sont déchirés, bon. Si tu es en train de manger, il y a une tache qui est tombée là-dessus. Mais il y a une autre tenue dans ta garde-robe. Frère. Alléluia. Si elle s'est déchirée, ou bien si la servante en repassant a laissé brûler. Ah! On a brûlé le fer à repasser. Quoi? Je ne comprends pas pourquoi. La dernière fois, quand elle a brûlé le tricot, là, tu n'as pas trop parlé. Je dis, hé, toi, la maison, sois prudente. Tu brûles les affaires seulement dans la maison. Fais attention, hein. Il y a un autre habit, là, quand elle a brûlé, peut-être même tu as voulu la renvoyer. Tu connais la valeur. Alléluia. On comprend mieux, non? Hein? Tu connais la valeur de ce que tu connais. Amen. Volonté agréable. La volonté parfaite dans les garde-robes, c'est très difficile de l'avoir. Monsieur l'a compte. La volonté parfaite, c'est très difficile. C'est très difficile. Bon, moi je dis généralement pour les femmes, hein, un habit, une fois qu'elle l'a porté, rentre dans la zone agréable. Mais la femme, c'est le jour de l'événement. Elle sort l'habit parfait. Voilà, parce que généralement, en fait, on n'évolue pas. Alléluia. C'est-à-dire, il y a une fête, il y a une cérémonie. Elle regarde sa garde-robe, elle ne voit pas ce qu'elle peut porter dedans. Elle va faire ça spécialement pour la cérémonie. Dès l'instant où elle a porté, ça rentre dans la zone agréable. Amen. Voilà, ce qui est trop doux, on ne mange pas ça beaucoup. Ce qui est trop bon, quand quelque chose est excessivement bon, dès que tu manges deux ou trois fois, ça fait un excès, c'est plus bon. Mais en fait, on vit plus naturellement dans ce qui est agréable. Amen. Ce qui est agréable, ça te fait plaisir d'être là-dedans. Le parfait, en fait, on le touche très rarement. On le garde même, parce que si tu l'as trop goûté, il n'est plus parfait. Amen. Pour quelque chose soit parfait, il faut que ce soit très rare, très difficile à atteindre. Alléluia. Ça va, on se comprend maintenant, non? Si tu comprends, tu fais comme ça. Ok, gloire à Dieu. Alléluia. Encore un autre exemple pour mieux comprendre. Ça, c'est vous, dans votre choix. J'explique un peu, par exemple, aussi, dans la volonté bonne, agréable, parfaite. Que je donne souvent l'exemple d'une fête anniversaire. Vous organisez vos fêtes anniversaires. Et vous dites aux gens, j'exige à ce que tous mes amis, tous ceux que je connais, soient à ma fête anniversaire. Si tu n'es pas là, je ne te parle plus, c'est que tu es mon ennemi. J'envoie le faire part à toutes les personnes. Les gens, ils reçoivent, le faire part, et puis tout le monde dit. Il y en a qui décident de ne pas venir. Tu considères qu'ils ne sont pas tes amis. Et puis, les autres viennent. Tous ceux qui viennent ont fait ta volonté. Alléluia. C'est pas forcément que c'était agréable, mais ils ont fait ta volonté. Et dans l'ensemble des personnes qui sont déplacées à ta fête, il y en a qui sont venus avec des cadeaux. Ça fait plaisir. Amen. Tu te dis, en plus d'avoir fait ma volonté, tu vois. Donc, celui qui te fait le cadeau, il a fait ta volonté. Il a plus fait ta volonté que celui qui est venu simplement. Alléluia. Et puis maintenant, dans l'ensemble des cadeaux, là, que les gens te font, oh, tu dis, mais tu as pensé à moi. Hein? Tu n'étais même pas obligé. Le gars vient te féliciter, on t'envoie des cadeaux. Mais par exemple, c'est une femme, tu as accouché. En tout cas, tu as une promotion, les gens viennent te dire félicitations. Dans les félicitations, là, c'est ta volonté quand tu dis félicitations. Ceux qui ne sont pas venus, tu dis, oui, voilà, j'ai eu mon examen, tu n'es pas venu me féliciter. Donc, eux, ils n'ont pas fait ta volonté. Mais ceux qui viennent te féliciter, c'est ta volonté, ça te fait plaisir, tu es content. Et puis, dans les autres, il y en a qui te font encore un cadeau. Vraiment ça. Et plus le cadeau te tient à cœur, plus ça te fait plaisir. Amen. Le domaine de ce qui est agréable est très vaste. Il est très vaste. Et puis, dans tous les cadeaux que tu reçois, il y a un qui vient te donner ton rêve. Comme je dis souvent, depuis là, tu priais Dieu pour avoir une Mercedes classe M. Donc, le jour de ta fête, là, tout le monde vient en te faire cadeau. Oh, vraiment, c'est touchant. C'est touchant. Et puis, il y a quelqu'un qui arrive dans la foule de ceux qui t'offrent les cadeaux, qui sort une clé comme ça. Tu dis, c'est quoi ça? Tu regardes, on t'offre la voiture de tes rêves. Tu vois? Là, ce n'est plus agréable. C'est parfait. Amen. Alléluia. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est qu'on peut faire la volonté d'une personne, mais il y a trois grands niveaux de volonté. Quelque chose peut être juste bon. Ce qui est bon, c'est ce qui n'est pas mauvais. Amen. Donc, Jésus dit, mon Père ne m'a pas laissé seul. Il ne me laisse pas seul, Jean 8, 9. Parce que moi, Jésus, je fais tous les jours ce qui lui est agréable. Vous comprenez mieux, non? Amen. Ça veut dire quoi? Un chrétien qui évolue dans la volonté bonne de Dieu, ça dit ce qu'il fait n'est pas mauvais. Là. Il ne pêche pas. Faire la volonté bonne de Dieu, ce n'est pas péché. Et tu fais le faux toute la journée, toi tu ne pêches pas. Faire la volonté agréable, c'est poser des actes qui réjouissent le cœur de Dieu. Amen. Ne pas faire le mal ne réjouit pas forcément le cœur de Dieu. C'est bien. Aurélie n'a pas péché. C'est bien. Amen. Alléluia. Regardez. Vos ennemis, c'est ceux qui vous font le mal. Vos camarades, c'est ceux qui ne vous font pas du mal. Mais quand quelqu'un commence à vous être agréable, vous n'avez plus envie de le laisser. Vous êtes toujours avec lui. Au téléphone, vous parlez. Parce que celui avec qui vous avez plaisir, vous aimez rester avec lui en sa présence. Alléluia. Ce n'est pas celui qui vous parle. Ce n'est pas celui qui fait ce qui est bon. Vous me suivez? C'est-à-dire que celui qui ne fait pas le mal, il vient, il te salue. Rappelle-moi ton nom. José, ça va? Oui. Il est poli avec toi. Il est gentil. Il est bien. Il est correct, quoi. Même si tu as forcément envie de rester avec lui, un gars correct. Non, non, jugez par rapport à la vie. Est-ce quelqu'un qui est correct, qui est là, il est toujours correct, il est poli. Quand tu parles, il ne se fâche pas. En tout cas, tu n'as rien à lui reprocher. Mais est-ce que c'est forcément une compagnie? Attends, vous comprenez? Vous n'avez pas envie d'être avec vos ennemis, là, c'est certain. Mais quelqu'un dont la compagnie ne vous est pas agréable, c'est pas qu'elle est mauvaise. Vous faites la différence, non? C'est-à-dire, il est là, il est bien, tu n'as rien à lui reprocher. Ce que tu lui demandes de faire, il fait. Et puis, c'est tout, quoi. Donc, ça peut être un bon collègue de travail, ça peut être quelqu'un avec qui tu collabores bien. Mais c'est pas un ami. C'est pas quelqu'un avec qui tu prends plaisir. Tu vois? Alléluia. Donc, tu ne seras pas toujours avec lui. Amen. Mais quelqu'un qui fait toujours ce qui t'est agréable, tu prends toujours ses nouvelles. Regardez, les gens qui ont été corrects dans ma vie, vous les oubliez. Vous pouvez les oublier très facilement. Les gens qui ne vous ont pas fait du mal, vous pouvez les oublier. Mais les gens qui ont touché votre cœur, qui ont fait les choses qui vous sont agréables, vous ne les oubliez pas. Vous vous rappelez. Vous les appelez. Où il en est? Où il est? Qu'est-ce qu'il a fait? Parce que pour toucher le cœur d'une personne, il faut faire plus que ce qui est bon. Pour qu'une personne pense à vous constamment, il faut faire plus que ce qui est bon. Alléluia. Quand une personne, la présence d'une personne, vous êtes agréable, vous cherchez toujours une occasion pour être avec elle. Et quand la présence d'une personne vous est agréable, vous êtes content d'être avec elle, de partager avec elle, de communiquer avec elle, cette personne-là devient un ami. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Vous avez l'habitude que Dieu nous a créé à son image. Hein? Le passage qu'on lit comme ça, on ne comprend pas, mais c'est très simple. Hein? Amen. Moi, je me rends compte de ma vie. Quand quelqu'un ne vous est plus agréable, je vous assure, vous n'avez plus de raison d'être constamment avec la personne. Vous avez des personnes qui, à un moment donné dans votre vie, vous sont agréables. C'est comme ça qu'on perd les amitiés, là. C'est pas parce qu'il est devenu ton ennemi. C'est pas qu'il est devenu ton ennemi, mais en fait, quand vous vous retrouvez, voilà, c'est-à-dire vous n'avez plus le même sens d'intérêt. Avant, vous y amiez, avant, vous avez des sens d'intérêt. Avant, vous avez du plaisir d'être ensemble parce que vous partagez les mêmes idéaux, parce que vous avez les mêmes goûts, vous avez les mêmes choses, donc vous êtes content d'être ensemble. Et maintenant, peut-être que tu es converti, il est resté dans le monde. C'était ton frère avant, c'était ton ami. Vous avez du plaisir d'être ensemble, mais comme vous n'avez plus les mêmes objectifs, comme vous ne recherchez plus les mêmes choses, sa présence ne vous est plus agréable. Il n'est pas devenu votre ennemi, mais vous ne serez pas toujours avec lui. Alléluia. Nous, les hommes physiquement, on peut pas être partout à la fois tout le temps. Vous comprenez, non? Mais je dis toujours la personne, c'est la personne dans votre pensée. Pour nous, les hommes physiquement, je ne finirai pas la semaine sans penser à cette personne. Tu vois?
Avant la fin de la semaine, je vais t'appeler une fois. Et quand des gens sont agréables, vous avez fait 3 jours sans vous appeler. Tu dis, mon frère, mais tu dames sur moi, là. Après 3 jours, sans coup de fil. Tu dis, mais vraiment, tu m'as oublié ou quoi? Mais quelqu'un qui ne vous est pas agréable, 2 ans, foutez. Quelqu'un qui est bon? Non. Il t'appelle 1 an plus tard. Tu dis, ça va, il y a longtemps, hein. Puis c'est tout. Mais une personne qui vous est agréable, après 3 jours sans coup de fil, vous le sentez. Vous l'appelez, on dit quoi? Mais tu quoi? Ça fait 12 mois qu'on ne sait pas. Même une semaine, vous parlez. Parce qu'il faut, vous avez besoin de parler, vous êtes content, ça vous fait plaisir. Alléluia. Et Dieu, c'est pareil, c'est ce qu'il est en train d'expliquer, c'est ce que Jésus nous explique. Il dit, le Père va être constamment avec une personne parce que le Père trouve du plaisir d'être avec elle. Pas parce que la personne ne pêche pas. Pas parce que la personne ne vole pas, parce que la personne est correcte. Mais parce que Dieu, quand il marche avec son enfant, il est content. Comment dire, il sent bien, c'est Dieu. Dieu me met content. Dieu que l'enfant me plaît. Hein. Tous les jours, il marche, Dieu est content. Les deux sont contents. Il sait toucher le cœur de Dieu. Il sait faire plaisir à Dieu. Papa est content. Alléluia. Et je vais même vous dire, ça va même plus loin. Ça va même plus loin. Même avec vos propres enfants. Oui, dans l'avenir, vous ferez une différence. Vos enfants, vous avez l'attachement filial qui va faire que vous allez toujours prendre de leurs nouvelles. Mais regardez une femme. Déjà, un père de famille ou bien qui a plusieurs enfants. Il y en a 4, 5. Les autres, lorsqu'ils grandissent, vraiment, ils n'ont pas ton temps. Ils sont tout en train de jouer. Et puis, tu as un moment, tu as un de tes fils qui pense toujours à toi. Chaque jour, il va t'appeler, maman, comment tu vas? Tu vois, tu aimes tous tes enfants. Hein? Tu sens qu'il a une attention plus particulière vis-à-vis de toi. C'est lui qui se souvient toujours de ta date d'anniversaire. Et qui pense à toi, qui t'apporte des cadeaux. Tu aimes tous tes enfants. Mais il y a un à qui tu commences à être vraiment attaché. Ce qui va se produire, c'est que celui en qui tu reconnais vraiment un amour pour toi, à un moment donné, quand il sera plus grand, tu vas même commencer à lui partager tes secrets. Les autres ne le diront pas. Tu dis, viens, je te dis un petit truc. Tu sais, et puis tu vas commencer à lui expliquer les douleurs de ton âme. Mais pourtant, même c'est un enfant. Il y a certains comme ça qui sont comme ça avec leurs parents. Amen. Ils sont même devenus les amis de leurs parents. Il n'y a même plus une relation de papa ou bien de père et de fils ou de papa et de maman. Vous êtes devenus amis. Et tu arrives à conseiller ta mère ou bien ton père, puis vous partagez tout. Parce que vous êtes devenus des amis. Et même avec d'autres fils, cette personne ne partage pas tout. Mais ce sont ses fils. Ce sont les enfants. Si quelque chose arrive, elle va pleurer. Dieu nous aime tous. Dieu nous aime tous. Il n'y a pas de distinction. Amen. Il ne faut pas déformer ce passage. Mais la présence constante qui fait que vous pensez constamment à une personne ne peut venir que du fait que cette personne-là vous touche par ses actes agréables. Il n'y a pas autre chose. Amen. Elle vous fait plaisir. Elle fait des choses qui touchent votre cœur.
Amen, amen, amen. Ah, si tu comprends, il faut acclamer le Seigneur.
Éphésiens chapitre 5, verset 10 dit ceci. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Alléluia. Vous savez, je veux carrément laisser le côté de la perfection. La perfection, même, c'est sporadique, c'est pas. De manière générale, on marche dans l'agréable. Amen. On marche dans l'agréable. Le parfait, c'est. Bon, c'est vraiment la dimension supérieure. Le parfait est supérieur à l'agréable. Mais ce qui fait plaisir à Dieu, ce dans quoi il vit, c'est agréable. La Bible dit de David que David était le chant agréable de l'Éternel. Dieu aimait la présence. Dieu aimait David. C'est pourquoi, quand même David péchait, Dieu était prêt à punir les autres pour les péchés, mais David ne peut pas le toucher. Pourquoi? Parce que David rejouissait le cœur de Dieu. S'il meurt là, qui va rejouir son cœur? Est-ce que vous comprenez, non? S'il s'en va, je serai content comment? En fait, ce dont je suis en train de vous parler, Dieu cherche des amis. Dieu cherche des gens qui tous les jours, papa est content. C'est-à-dire, c'est pas des gens qui le suivent par intérêt. Parce qu'il y a une chose qu'il faut savoir aussi. Quelqu'un qui marche avec vous par intérêt peut jamais vous être agréable. C'est-à-dire qu'un individu, dès que vous le voyez, c'est dit donne-moi. Son visage ressemble à donne-moi. Lui, il raconte dans la ville, il dit lui là. Hein? Il dit, Jésus, c'est mon pote. Il dit, c'est mon gars même. Quand il pense encore que c'est ton meilleur ami, mais quand tu le vois, ton cœur, tu dis, oh le gars là, il est venu encore. Parce que dès qu'il rencontre José, José te montre les jolis, hein? José. José, José, José. Fais une offrande, mon frère, fais une offrande. Dans l'amour de Jésus, tu lui donnes 5 fois. Quand je l'arrive, José, mon gars. Au début, tu ris parce que tu crois que tu as trouvé un ami. Ouais, tu dis, frère, comment tu vas? Il dit, oui. Vous causez toujours qu'il dit, José, ton tricot, José. À cause de l'amour de Jésus, tu lui donnes ça. Finalement, quand il vient, il rentre chez toi à la maison. Mais José, mon gars. Ouais. Il t'appelle au téléphone, tout ça. Au début, tu crois que ça va aller. Hein. Tu l'appelles toi aussi au téléphone, vous causez. Dès qu'il arrive chez toi à la maison, José. C'est joli à ta télé là. José.
Pourquoi vous ne pas de la télé?
Hein? Ou bien ta chaussure, des trucs comme ça. Et puis tu vois, tu constamment, il te demande seulement. Subitement, tu n'as plus trop l'appeler. Tu vois. Parce qu'au début de la relation, tu croyais qu'il avait de l'espérance, de joie. Et puis, un moment, tu n'as plus trop envie de l'appeler. Tu dis, les gars, là, non. C'est donc, il quitte l'amitié de mon camarade. Après, même, c'est comme un ennemi. Maintenant, tu le fuis. Donc, quand tu es là, quand tu es. Avant, tu étais dans ta voiture, si tu le vois, tu descends. Hé! Comment tu vas? Après, même quand tu le vois, tu fais quand tu ne l'as pas vu. Tu ne peux pas être toujours avec quelqu'un comme ça. Alléluia. Mais c'est une connaissance. Vous voyez, il y en a qui, dans leur communion avec Dieu, sont des connaissances pour Dieu. Parce que quand ils s'approchent de Dieu, ils ne sont qu'intéressés. C'est, la personne même de Dieu ne les intéresse pas. Vous voyez, c'est vraiment gênant de marcher avec des gens qui ne sont intéressés que par ce que vous avez et par ce que vous pouvez leur donner. Ça embête, vous savez, nous sommes créés à l'image de Dieu. Et ce qui nous embête, ça embête aussi le Seigneur. Déjà, dès qu'il prie, donne-moi. Donne-moi. Donne-moi l'argent. Donne-moi le mariage. Donne-moi. Donne-moi. Même leur louange à Dieu est intéressée. Ouais, non. Pendant qu'elle vient dire, José, tu es un vrai gars. Mais qui est comme toi, José? J'ai dit, non. Moi, je t'explique aux gens que tu es mon frère. Je sais que tu es trop gentil, même José. C'est que ça, là. C'est une flatterie. Il est en train de te baratiner là. Pour toi-même, tu sais, quelquefois pour te débarrasser, tu regardes. Ça, c'est pas un ami. Tu vois. Et alors, leur louange est comme ça devant Dieu. Même quand ils louent Dieu. Oh, qui est comme toi? Seigneur, tu es glorieux et tu es merveilleux. Mais Dieu même sait que.
Il veut blaguer Dieu, quoi.
Alléluia. Il veut le blaguer. C'est pas sincère. C'est pas une appréciation profonde.
Alléluia.
Alléluia. La Bible dit d'examiner ce qui est agréable. Lorsque vous aimez une personne, en fait, pour commencer à faire ce qui est agréable à une personne, il faut d'abord premièrement l'aimer. Celui qui vient vers Dieu pour chercher ses intérêts n'aime pas Dieu en réalité. En fait, il s'aime lui-même. Mais il a vu Dieu comme étant une source de profit. Donc, il veut utiliser Dieu pour atteindre ses objectifs personnels. Mais il n'aime pas Dieu. Alléluia. Vous savez, là où nous apprenons à rentrer dans la porte d'Issacar, je veux comprendre ceci, c'est qu'il dit, la bénédiction sera avec toi. Cette partie-là peut pas venir dans la vie de, cette porte-là peut pas s'ouvrir dans la vie de ceux qui n'aiment pas Dieu. C'est pas possible. L'époque précédente, Dieu peut chasser tes ennemis. Je vous ai montré comment est-ce qu'il faut agir. Dieu peut bénir ta corbeille et ta huche. C'est pas un problème pour le Seigneur de bénir ta corbeille et ta huche. C'est pas un problème pour l'Éternel de te montrer même ton territoire de faveur. Parce qu'il sait que, Paul dit, il y en a qui prêchent Christ pour leur propre vente, d'autres prêchent Christ pour des motifs purs. Il y en a qui le prêchent pour des motifs impurs. Il dit, mais peu importe, la parole de Dieu annoncée. Dieu peut t'envoyer sur le territoire de ta bénédiction pour que tu travailles. Dieu peut te donner ta corbeille et ta huche pour voir à ce que tu puisses manger tous les jours. Ce n'est pas un problème pour Dieu. Dieu peut même terrasser tes ennemis. Mais son amitié, pour qu'il soit tous les jours avec toi, non, il faut que tu l'aimes. Ça, on ne peut pas tricher avec ça. Amen. La bénédiction d'Issacar, les choses qui commencent là, ne peuvent venir que dans la vie de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Amen. Et cette bénédiction-là que Jacob a hérité totalement, regardez ce que le Père a dit. Il a dit, fais-moi quelque chose que j'aime, afin que mon âme te bénisse. La suite des bénédictions ne peut venir que de l'amour de Dieu. C'est-à-dire, tu as fait un acte, dans les actes agréables à Dieu. Il y a un acte, un jour que tu vas faire à Dieu. Comme tu t'y exerces tous les jours, et tu fais tous les jours, pas par recherche d'intérêt, mais vraiment parce que tu l'aimes. Et un jour, tu fais un truc à Dieu là. C'est quand tu as chatouillé Dieu dans le ciel. Parce que la bénédiction, comme j'ai dit, c'est une parole qui jaillit de la bouche du Père. Bah, ça sort. Mais pour que ça sorte là, il faut que Dieu rie et puis soit content. Il dit, Jacob, il dit à Esaü, il dit, amène-moi une nourriture qui va réjouir mon âme afin que je te bénisse. Lui-même, il voulait bénir. Mais si son âme n'est pas dans la joie, il ne peut pas bénir. C'est pas une affaire de ce que je veux. C'est une affaire de ce que tu fais à mon âme. Alléluia. Dieu veut nous bénir. Mais la bénédiction qui poursuit, c'est pas un problème de la volonté de Dieu. Dieu veut te bénir. Mais c'est l'acte que tu vas poser qui va réjouir son âme. Qui va faire qu'il va te prononcer ces paroles. Alléluia. Donc, ceux qui n'aiment pas Dieu ne peuvent pas ouvrir la porte d'Issacar. Les chrétiens aussi bons. C'est-à-dire, ils sont corrects. Tu es droit, tu ne pêches pas. Tu fais ton culte dimanche à l'église. Tu rentres à la maison. Tu lis la Bible tous les jours. C'est bien. C'est bien. Je ne suis pas en train de vous décourager. Hein. Je dis, il y a trois niveaux. Ce qui est sûr, tu vas aller au paradis. Amen. Ça, là, ça t'amène au paradis. Ce n'est pas quelque chose qui est agréable, quoi. Là, c'est pour que papa soit avec toi toujours. Il faut même plus que lire ta Bible tous les jours. Amen. Parce que quand tu lis ta Bible, c'est pour toi-même. Quand tu pries, c'est pour toi-même. Il faut toucher son cœur. Alléluia. Amen. Je termine avec ceci. Genèse chapitre 6, verset 6. Il a dit, l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de l'avoir fait. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Nous sautons, pardon, chapitre 8. Genèse chapitre 8. Je lis à partir du verset 18. Il a dit, Genèse 8, 18. Et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les enfants de ses fils. Tous les animaux, tous les reptiles et tous les oiseaux, tout ce qui se meut sur la terre, selon les espèces, sortirent de l'arche. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures, de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable. Dis avec moi, agréable. Dis avec moi, odeur agréable. Odeur agréable. Donc, l'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait, tant que la terre subsistera. Les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia! Je vous dis que je suis en train de vous ouvrir, de vous préparer à ouvrir ce dont je parlerai le dimanche, la clé de David. La clé de David a cette particularité. C'est une parole qui sort de la bouche de Dieu. Et la bénédiction, ces bénédictions-là ont la particularité d'être pour l'éternité. Dieu est rare en parole. Le Saint-Esprit, lui, nous conduit, il nous parle tout le temps. Mais Dieu le Père, il parle très rarement. Et quand il parle, amen. Et là, là, Josué avait trouvé grâce, Noé avait trouvé grâce devant Dieu. Dieu l'a dit, ok, je vais te sauver. Dieu l'a sauvé. Amen. Et puis lorsqu'ils sont sortis, Noé va décider de faire une offrande à Dieu. La Bible dit qu'il a pris de tous les animaux purs. La force dans ce qu'il a fait, c'est qu'il a eu la révélation de ce que sont les animaux purs et les animaux impurs. Parce que jusqu'à ce passage, apparemment, tout ce que Dieu avait créé était bon. Amen. Donc, je veux que vous remarquiez que ces gens à cette époque-là n'avaient rien d'écrit, n'avaient pas la loi qui écrivait et qui décrivait les textes. Parce qu'au temps de Moïse, c'était écrit, Dieu avait dit, voici les animaux qu'on appelle les animaux impurs, voici les animaux qu'on appelle les animaux purs. Et c'est comme si cet homme-là a senti qu'il y a des animaux que Dieu n'appréciait plus. Pour certaines choses, sûrement que les animaux l'ont dû faire. Et il a compris que l'offrande qu'il devait apporter à Dieu était ce qu'il y avait de meilleur sur la terre. Je parlerai dans la clé de David de qualité de ce type d'offrande. Et quand il a fait ça, ce que je vous expliquais, c'est que s'il avait fait une offrande, même des animaux, c'était bien. Vous comprenez, non? C'était bien. Mais le fait qu'il ait discerné, qu'est-ce qui allait faire plaisir à papa? C'était les animaux purs. Et c'est ce qu'il a pris, ce qu'il y avait de meilleur. Et puis il a apporté ça à Dieu. La Bible dit, le cœur de Dieu s'est réjoui. Amen. Et Dieu a déclenché une parole. Il dit, d'ailleurs même, je ne détruis plus la terre, c'est fini comme ça. Il dit parce que, et puis ils ont l'argument, il dit, d'ailleurs même, le cœur de l'homme est trop mauvais, est mauvais depuis son enfance. Mais est-ce que Dieu ne savait pas ça avant d'avoir détruit la terre? Dieu ne savait-il pas que le cœur de l'homme était mauvais depuis son enfance? Est-ce que ça l'empêchait pour autant, ça empêchait qu'il ne détruise la terre par le déluge? Si. Mais il y a des gens, quelle que soit la façon dont vous pouvez être en colère, qui ont touché tellement votre cœur, qui sont capables de vous faire changer d'avis par rapport à n'importe quelle colère. Imaginez votre ami qui vous est agréable, vraiment, et vous êtes fâché comment. Et celui-là vous dit, il faut laisser. Ça a plus de poids, je ne sais pas, que la règle, que la... Il y a des gens qui touchent le cœur de Dieu et qui transcendent les lois. C'est-à-dire, pour eux, vous êtes capable de... Je ne sais pas, de ne plus respecter la loi. La loi n'est plus vraie entre vous. Amen. Alléluia. Tu le regardes, Dieu. Son cœur est content, content, puis dit, voilà. Et Noé, par cette offrande, a déclenché une bénédiction. Dieu a dit, je ne maudirai plus. Amen. Alléluia. Et après, quoi, il a béni, il a fait les paroles. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit dans son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Qu'est-ce qui a déclenché ça? juste quelque chose d'agréable au Père.
Si jusqu'à ce jour, aucune pluie ne peut venir créer un déluge sur la terre,
c'est à cause de Noé.
Si jusqu'à ce jour,
amen,
les saisons existent,
c'est à cause de Noé.
Si jusqu'à ce jour, il dit, la loi de la semaille et de la moisson va demeurer. Si jusqu'à ce jour, l'homme peut semer et récolter,
c'est à cause de Noé.
Il dit, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Donc Dieu même pouvait avoir l'intention même de faire changer ça. Pour embrouiller les hommes, tellement il était découragé des hommes.
Noé a dérangé le cœur de Dieu.
En fait, ce que je veux vous dire, c'est que c'est encore possible. Alléluia.
Moi, je veux qu'on soit une assemblée de dérangeurs du cœur de Dieu. C'est-à-dire, Dieu est content de notre... Dieu est content de nous jusqu'à ce qu'il va faire.
C'est-à-dire, dimanche, là, moi, je veux que dimanche, c'est vrai, Dieu est dans toutes les églises sur la terre. Mais il vient faire le culte avec nous. Non, moi, c'est que Dieu est... La Bible dit que Dieu est partout à la fin. Parce que moi, j'ai compris qu'avec Dieu, il y a présence et puis il y a présence. On dit, Dieu est là. Il y a Dieu est là. Et puis, il y a Dieu est là. Il y a j'ai vu Dieu. Et puis, il y a j'ai vu Dieu. Chaque dimanche, avant de parler le culte, je dis, Seigneur, il faut que... On va faire quoi même pour te toucher? Et puis, c'est toujours pour que le culte, la réunion, en fait, tout ce que fait soit agréable. C'est que Dieu me met content. C'est Dieu me vient habiter dans ta chambre. Et il est content de rester avec toi.
Amen.
Bon, c'est vrai que ces derniers temps-là, ça m'arrive. Mais c'est quand même revenu. À un moment donné, mon love avec Dieu était trop puissant. Ces derniers temps-là, ça revient un peu. C'est la nuit, il me réveille. Pas pour beaucoup prier, mais pour qu'on cause. Dieu me réveille. On cause et puis on cause. J'ai dit, mais la nuit, on a sommeil. J'ai fait que je suis trop. Il n'y a pas de sujet. Il y a des fois, Dieu te réveille pour te dire d'intercéder.
Mais une fois là, il te réveille, il ne te donne pas un sujet même. Vous êtes là, vous deux. Vous regardez. Et il est content.
La nuit, il s'est promené sur la terre. Il dit, mon fils là, viens m'accuser. Il te réveille.
Il est content.
Jésus réveille, Dieu réveille Jésus la nuit. Il dit, viens m'accuser. Jésus monte sur la montagne. Puis les deux causent, ils sont contents.
C'est bien. Il est content. Il dit, vous êtes papa avec moi. Parce que je fais tous les jours ce qui lui est agréable.
Alléluia. Et Dieu a prononcé des paroles sur la terre parce que Noé a fait ce qui était agréable. Et Dieu tient à ses paroles. Donc, la bénédiction, cette bénédiction qui a été prononcée, les semailles, l'été, l'hiver, qui est une faveur, qui est une bénédiction, n'a plus quitté la terre à cause de ce qui était agréable. Amen. Elle est demeurée. Il dit, j'ordonnerai la bénédiction d'être avec toi. Pour que Dieu ordonne la bénédiction d'être avec toi.
Quelque chose d'agréable.
Amen. Si tu as compris, tu vas acclamer le Seigneur. On va s'arrêter là.
Merci d'avoir suivi ce message et n'oubliez pas de mettre en pratique les conseils que vous avez reçus du Seigneur. You came